À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Nathalie Cabrol, astrobiologiste.
Deuxième épisode, le Big Bang de l'astrobiologie. Mes titres vous font rigoler. Bonsoir, Nathalie Cabrol.
Bonsoir.
Ben oui, mais le Big Bang de l'astrobiologie, puisque l'astrobiologie, c'est la discipline dans laquelle vous avez excellé toute votre vie. L'astrobiologie ne parle pourtant pas à grand monde en dehors de vos camarades, de vos collègues, et puis des passionnés comme vous par ce que vous faites. Donc il va bien falloir définir un peu les choses. Hier, vous nous disiez... Vous parliez d'exobiologie, vous parliez de Gusev. Gusev, on va en parler tout à l'heure. Vous parliez de NASA Ames. Alors la NASA, ça parle un petit peu. Si on dit astrophysicienne, je crois qu'on comprend. Astronome, astronaute, on sait. Mais effectivement, planétologue ou astrobiologiste, on connaît un peu moins. Et de fait, c'est une discipline récente, puisque on a bien compris hier en vous écoutant parler sur vos débuts, que c'est une discipline qui a à peu près l'âge de vos études. Elle a commencé fin des années 70, avec quelques petites choses avant, quelques petites briques de vie avant.
Oui, j'ai commencé mon doctorat des années 90, donc c'était déjà bien engagé, mais bien engagé aux États-Unis. C'est venu en France un petit peu plus tard, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces structures européennes ou même du CNES, des missions, etc. C'est très très différent aujourd'hui. Alors la planétologie, c'est l'étude des planètes, et ça recouvre un grand nombre de domaines. Et c'est comme l'astrobiologie. L'astrobiologie, en fait, c'est un ensemble des disciplines dont le but est de chercher la vie dans l'univers, de répondre à des grandes questions. Sommes-nous seuls? Quelle est l'origine de la vie? Quel est le futur de la vie en dehors de la Terre, par exemple? Donc, l'astrobiologie par elle-même est multidisciplinaire. La planétologie, ça peut être aussi bien l'étude des atmosphères des planètes, la géologie, la morphologie. Donc tout ça, un petit peu, c'est comme la médecine. La médecine, ça regroupe beaucoup de choses. Vous pouvez être cardiologue, vous pouvez être chirurgien, vous pouvez être podologue, vous pouvez être un certain nombre de choses. Et donc, c'est la même chose pour l'astrobiologie. C'est utiliser ces disciplines, par exemple, comme la géologie, la morphologie ou l'étude des atmosphères, pour essayer de comprendre s'il y a des conditions habitables pour la vie sur une planète ou sur un satellite. Et puis aussi comprendre comment la vie est apparue et où elle peut se trouver ailleurs dans l'univers.
Quelle est la genèse de cette discipline?
La genèse de cette discipline, c'est bien évidemment, c'est venu très tôt en fait. Même si les mots de planétologie et d'astrobiologie ne parlent pas nécessairement aux gens, tout le monde en fait un petit peu sans le savoir. Parce que ces questions, sommes-nous seuls dans l'univers, ça fait partie des plus vieilles questions de l'humanité. Donc, quand vous commencez à penser à ces choses-là, eh bien, vous faites un petit peu de philosophie de la science, d'épistémologie de la science, qui se rattache à l'astrobiologie. Et ça a commencé très très tôt, parce que, bien évidemment, on n'a pas eu besoin d'avoir des missions spatiales pour penser à ces questions. Ça fait des milliers d'années qu'on se les pose, et peut-être on se les pose depuis que l'humanité existe. Mais au point de vue de la recherche spatiale et planétaire, de l'exploration, il y a eu, bien évidemment, la première mission vers Mars. C'était une des premières cibles, parce que Mars a toujours beaucoup attiré le regard des humains. Elle est rouge dans le ciel, elle se démarque des autres. Et puis en plus, dès qu'on a commencé à l'observer, on s'est rendu compte qu'il y avait des saisons, qu'il y avait des calottes polaires, qu'il y avait peut-être même des canaux à la surface. On sait que c'est pas vrai, il n'y a pas de canaux à la surface. Mais enfin, au travers de l'optique d'un télescope, c'est ce qui semblait exister. Donc, dans les années 60, au tout début des années 60, les premières missions marinaires, elles vont vers Vénus et vers Mars. Vers Mars, et quand la première s'en va, même parmi les scientifiques, il y en avait beaucoup qui étaient pratiquement certains qu'on allait trouver quelque chose sur Mars. Il y a donc cette espèce d'espérance de trouver la vie ailleurs. Et donc c'est pas le cas, il n'y a pas de dôme en cristal, il n'y a pas de canaux à la surface de Mars, il n'y a pas d'oasis à la surface de Mars par exemple. Mais il y a maintenant tout un questionnement, parce qu'on a vu que Mars, malgré qu'elle soit désertique aujourd'hui, Elle nous a étonnés par la présence de volcans, de calottes polaires, de dunes, de vallées. Comme je dis souvent, il n'y a pas besoin d'inventer de mots pour caractériser Mars. C'est vraiment un paysage qui nous est familier. Des couchers de soleil, une journée de 24 heures, les levées de soleil, sauf que c'est inversé. Les levées de soleil et les couchers de soleil sont bleus sur Mars, sur la planète rouge. C'est le monde à l'envers. Mais donc, c'est un questionnement qui a débuté avec Mars, avec la mission Viking, qui est la première mission qui cherche de la vie ailleurs dans le système solaire.
1976.
Carl Sagan est au milieu de toute cette affaire-là, parce qu'il est au milieu de tout à cette époque-là. Et pour le bien de tout le monde, parce que c'était un grand esprit. Et donc, cette première recherche astrobiologique, le terme n'existait pas encore à l'époque, on parlait plutôt d'exobiologie, qui est repris maintenant un petit peu différemment. Mais Viking, c'est la première mission qui a des expériences de biologie à bord. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas du tout l'environnement martien. C'est la première fois qu'on se pose sur Mars. Il y a bien des images, de marineurs ou de marineurs neufs. Mais en dehors de ça, on n'a aucune idée. On sait que Mars avait de l'eau par le passé, mais les conditions actuelles, on ne les connaît pas.
Et on sait qu'elle est passée d'une apparence semblable à la Terre, quelque chose près, à une planète totalement déserte
et
désolée.
Et hostile pour la vie telle qu'on la connaît. Et donc, c'est un problème parce que il y a des résultats dans les expériences biologiques de Viking qui auraient pu faire croire qu'il y avait de la vie sur Mars. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que, après toutes les missions qu'il y a eues, qu'en fait, la chimie locale et l'environnement local nous expliquent que ce sont plutôt des réactions chimiques que des réactions biochimiques. Mais il y a encore des gens qui doutent à l'heure actuelle aujourd'hui. Et c'est pourquoi on a créé un programme intégré d'exploration pour nous permettre de connaître l'environnement de Mars, passé et présent, le climat passé et présent de Mars. Et seulement quand on a intégré toutes ces données, on a commencé à penser à nouveau à envoyer des missions comme les rovers, les premiers rovers Spirit et Opportunité, pour essayer de comprendre si Mars avait été habitable dans le passé. Et une fois que ça a été fait et qu'on avait les preuves, donc que ça avait été fait, bien on a envoyé Perseverance pour enfin à nouveau chercher de la vie, des traces de vie sur Mars. Et puis il n'y a pas que la NASA, et là j'ai parlé des missions américaines, mais bien évidemment l'ESA est complètement impliquée dedans. Et puis il y a aussi l'Inde aujourd'hui, ou les Émirats qui envoient des missions, les Japonais s'y mettent. Il y a beaucoup beaucoup d'intérêt, c'est pas seulement Mars, c'est un petit peu toute exploration planétaire. Et l'astrobiologie s'est envolée, d'une certaine manière parce qu'il y avait ces missions, mais aussi parce qu'en dehors des découvertes qu'on faisait sur les planètes, on a commencé à découvrir la nôtre aussi d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer. Et on a découvert que la vie sur Terre, elle est pratiquement partout où elle peut être. Et l'exploration des environnements extrêmes nous a aussi apporté beaucoup d'informations sur les possibilités de vie ailleurs que sur la Terre, tout en nous donnant des informations sur ce qu'est la vie sur Terre et comment elle a commencé. Donc, l'astrobiologie, elle est née dans ces moments-là. Les années 70, c'était vraiment un moment où il y avait un énorme optimisme, où il y a eu beaucoup de données qui ont commencé à arriver. Et c'était un petit peu dans tous les sens. Et puis, petit à petit, les années 80-90, on a commencé à ordonner tout ça, à structurer tout ça dans des programmes. Et l'astrobiologie elle-même, et l'Institut d'astrobiologie, en tout cas aux États-Unis, ont vu le jour vers la fin des années 90. Et Carl Sagan et d'autres, il n'était pas le seul, ont beaucoup poussé pour ça. Malheureusement pour Carl, il n'aura pas vu la naissance de l'Institut d'astrobiologie. Il est mort juste avant. Mais lui et Frank Drake et d'autres noms, dont on reparlera, parce qu'ils sont vraiment au cœur.
J'aimerais bien qu'on en parle maintenant, en fait. Oui. Effectivement, parce que vous, non seulement parce que vous l'avez cité déjà deux fois, Carl Sagan, mais parce que vous dirigez depuis 2015 le centre de recherche de l'Institut SETI qui porte son nom. Il a beaucoup compté pour vous, mais il a beaucoup compté aussi pour l'astrobiologie.
Pour l'astrobiologie, Carl,
c'est... On peut le connaître aussi, pardon de vous interrompre, mais on le connaît aussi parce qu'il a été l'auteur d'une série télé très populaire, que vous regardiez d'ailleurs quand vous étiez enfant, je crois, Cosmos.
Oui, j'ai partagé mon enfance entre Cosmos de Carl Sagan et Les Voyages de la Calypso avec Jacques-Yves Cousteau. Ça explique ce que je fais aujourd'hui. Probablement. Oui, ma première vision de Carl Sagan, c'est Cosmos dans les années 80. J'avais juste terminé mon bac et je m'engageais dans l'Hippocagne et ensuite toute. Cosmos, pour moi, ce que c'était, Cosmos, c'est un voyage, il l'appelait son voyage personnel au travers de la découverte de l'univers. Et c'est une vision, profondément humaine et une perspective et une philosophie qui nous ouvre des horizons. Carl nous a permis, c'est un changement de perspective, il nous a permis de regarder, de nous voir dans l'univers d'une manière qui n'existait pas jusqu'alors. Il était partout à l'époque, il était un astronome doué, c'était quelqu'un qui était plus une personne à idées, et qui s'entourait de gens pour les réaliser. En quelque sorte, je me retrouve un petit peu là-dedans, parce que je partage un petit peu cette vision-là. J'ai facilement une vision pour l'avenir, et j'aime bien m'entourer d'équipes multidisciplinaires pour les réaliser. Et Carl faisait la même chose. Et donc, on le retrouve dans toutes les missions. Il a aidé à la préparation de la mission Viking. Il a aidé à la préparation des missions Voyager, non seulement la plaque qui se trouve sur Voyager, qu'il a confectionnée avec Frank Drake pour mettre un message que les sondes ont emporté, au cas où, puisque les sondes Voyager ont quitté le système solaire, c'est notre première bouteille à la mer, si vous préférez. Et donc, au cas où il y aurait une civilisation extraterrestre, un jour ou l'autre, qui capte cette sonde, eh bien, il y a un message des humains sur cette sonde. Et Carl et Frank donc, ont confectionné cette plaque. Il y avait une plaque aussi sur Pioneer. Et Carl était aussi sur Galiléo, sur la mission Galiléo. Et Galiléo, c'est quelque chose qui est absolument formidable. Il y a cette période en 1990 qui est vraiment un tournant dans l'existence, je dirais pas dans l'existence de Carl, mais dans la vision qu'il nous a apportée. C'est probablement l'année déterminante dans le message qu'il nous a envoyé. Il y a le premier message qui est la demande de Carl de tourner la caméra de Voyager, qui se trouve déjà dans la région de Neptune à ce moment-là. En 90, ça fait 15 ans hein, à peu près que Voyager est parti, 13 ans. Elle se trouve dans la région de Neptune et Carl Sagan demande qu'on retourne la caméra de Voyager et qu'on regarde la Terre. Et à ce moment-là, il y a cette image fabuleuse du petit point bleu pâle de l'image de la Terre qui est un pixel. Dans cette image, un tout petit pixel, et il se trouve qu'il y a un rayon de soleil juste qui passe là, et elle est dans ce petit rayon de soleil. Et c'est pour ça qu'il disait un petit grain de poussière suspendu sur un rayon de soleil. Et c'est quelque chose de très poétique. En plus, il avait cette poésie, cette facilité d'écriture. Mais ce qui nous montre à cette époque-là, c'est combien nous sommes fragiles, combien la Terre est petite et pas perdue dans le sens pessimiste ou noir de cette chose-là, mais on est vraiment tout ce que nous avons. C'est-à-dire que les humains, l'ensemble de l'humanité, c'est tout ce qu'on a. C'est notre famille. Depuis l'espace, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur. Notre couleur, elle est bleue. Elle est bleue dans l'espace. Elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle n'est pas jaune, elle n'est pas rouge. Elle est bleue. Et ensuite, il y a toute cette magnifique description qu'il fait de tous les gens que vous avez aimés, tous les tyrans, vous connaissez cette tirade dans Cosmos. Et c'est vrai, il nous ouvre cette perspective. C'est un changement de perspective. On ne se voit plus depuis la surface de la Terre en regardant vers le ciel, mais pour la première fois, on se voit depuis l'espace. Et c'est même pas l'espace de voisinage, parce que ça, c'est le début de l'exploration lunaire qui nous l'a donné avec les astronautes qui regardent la Terre. C'est un premier changement de perspective. Tandis que ce que Carl nous offre, si loin de la Terre, c'est la notion qu'on peut détecter des planètes sur un fond cosmique noir. Et ça, c'est le message philosophique. Ça se passe en février de 90. Et quelques mois plus tard, en octobre, la sonde Galileo, eh bien non, évidemment, il fait partie de l'équipe scientifique de la sonde Galileo. La sonde Galileo, elle est destinée à aller vers Jupiter pour étudier les satellites galiléens. Mais avant d'y arriver, elle fait quelques passages autour de la Terre pour assistance gravitationnelle, simplement pour gagner de la vitesse. Et il n'était pas du tout prévu qu'on étudie la Terre avec cette sonde, mais Carl a décidé de faire une expérience et d'utiliser les instruments qui se trouvent sur Galiléo, les tourner vers la Terre et essayer de comprendre si on peut détecter la présence de la vie sur Terre depuis l'espace. En février, il nous donne le message philosophique de la détection de planètes dans l'espace. Au mois d'octobre, il nous donne les clés méthodologiques de comment détecter ces planètes. Et c'est des choses qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, il était au cœur de cette révolution. Et 2 ans après, 3 ans après, il y a la première découverte d'exoplanètes qui est faite. Et c'est cette révolution aujourd'hui qu'on vit, bien évidemment. On découvre des exoplanètes tous les jours. Mais pour vous dire, donc, l'astrobiologie, la recherche de la vie ailleurs, d'autres planètes habitables, par exemple, ou d'autres formes de vie, il y a bien évidemment le début dans les années 70, et puis d'un seul coup, il y a cette explosion.
Une explosion,
dans,
en fait.
Dans les années 90.
Et on comprend bien pourquoi vous avez un portrait de Carl Sagan accroché à côté de votre bureau pour le voir tous les matins, Nathalie Cabrol. Peut-être pouvez-vous nous parler de l'autre astronome que vous avez évoqué, qui est Frank Drake. Frank Drake est décédé en septembre 2022. On n'insiste pas. Donc, Frank Drake, vous l'avez rencontré en 1998 à Mountain View. Et il est connu, si tant est que je puisse m'exprimer ainsi, mais disons qu'on connaît l'équation de Drake. Mm-hmm. Alors, qui était Frank Drake et qu'est-ce que l'équation de Drake?
C'est, on peut dire qu'on a vécu un âge d'or ces dernières décennies pour l'astrobiologie. Et notre génération, comme je le dis souvent, elle est à une époque charnière. Il n'y aura plus jamais une époque comme ça. Il y aura d'autres découvertes. Il y a la première révolution qui est donc cette nouvelle vision de notre position dans l'espace et puis de la recherche de la vie ailleurs. La prochaine révolution, ce sera évidemment la découverte de la vie ailleurs qui nous repositionnera vis-à-vis d'autres civilisations. Mais jamais plus il n'y aura ce moment dans le temps et dans l'espace où l'humanité a regardé pour la première fois sa position et a essayé de comprendre sa position dans le système solaire, etc. Et il y avait des gens comme Carl Sagan et Frank Drake qui ont écrit ces pages de manière absolument formidable. Il y en a eu d'autres, mais ces deux-là sont très importants pour l'astrobiologie. Et Frank faisait de la radioastronomie. Et en 1960, il va utiliser une des découvertes et des développements de technologies de la Deuxième Guerre mondiale, qui est le radar, et des antennes de radiotélescopes. Et il va démontrer qu'on peut tourner ces radiotélescopes vers l'espace et pourquoi pas essayer de détecter des civilisations extraterrestres. Et donc, en 1960, au début des années 60, il a fait une première démonstration. Ça intéresse la NASA à ce moment-là et on lui demande de faire une réunion pour essayer de mettre un petit peu de pour essayer de structurer un petit peu cette idée. Et donc Frank, Carl Sagan et d'autres, ils sont une douzaine et en Virginie. Et Frank veut organiser sa conférence. Et il ne sait pas tellement comment structurer ses idées. Alors d'un seul coup, il se met à penser à son ordre du jour et il se dit, si on doit trouver des civilisations extraterrestres, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors il commence à écrire sur le papier et en fait, l'équation de Drake, c'est véritablement l'organisation de sa conférence. Et il a commencé par le nombre d'étoiles qui seraient propices au développement de planètes. Et ensuite, il faudrait des planètes qui soient habitables parmi donc toutes tous ces mondes. Et puis ensuite, combien y aurait-il parmi ces planètes de planètes qui développeraient un environnement habitable pour la vie? Parmi toutes ces planètes habitables, combien y en aurait-il qui développeraient la vie? Parmi la vie, combien y aurait-il de ces planètes qui développeraient une vie intelligente? combien parmi les planètes où il y a de la vie intelligente, il y en a qui développeraient de la technologie. Et ensuite, il y a le facteur L, qui est celui de la durée. C'est-à-dire de la visibilité d'une civilisation extraterrestre, combien de temps une civilisation extraterrestre technologiquement avancée pourrait rester visible, c'est-à-dire visible pour les radiotélescopes. Et ça dépend de tout un tas de choses. Une civilisation peut disparaître parce qu'elle s'autodétruit, parce qu'il y a un événement cosmique, ou alors elle disparaît pour la radio parce qu'elle est devenue tellement intelligente et tellement avancée que bien il n'y a plus moyen de la percevoir par rapport au fond cosmique, c'est-à-dire qu'elle se fond désormais, elle est en équilibre complet avec l'univers. Donc, en quelque sorte, l'équation de Drake, c'était l'agenda du jour, mais cette équation-là, elle existe toujours. C'était en fait, quand on la regarde aujourd'hui, la première structure d'astrobiologie, parce que ce sont toujours les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de réponses que celles qu'on a désormais. Aujourd'hui, on sait par exemple que Franck utilisait le taux de formation par an d'étoiles ressemblant au Soleil, etc. Ce que nous a dit Kepler, Tess et le James Webb, c'est que, bien sûr, il y a beaucoup d'étoiles comme le Soleil et qui sont propices à la naissance de planètes comme la nôtre. Mais en même temps, ce n'est pas la seule. Et plutôt qu'un taux par an, il est peut-être préférable de regarder combien il y a au total de ces étoiles qui sont formées. Donc on peut, si vous voulez, commencer aujourd'hui à remplir les différentes cases.
Par exemple, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 125 milliards de galaxies qui contiennent chacune 100 à 400 milliards d'étoiles autour desquelles gravite au moins une planète. Ça, on le sait aujourd'hui, on ne le savait pas il y a 10 ans.
On ne le savait pas, on ne le savait absolument pas, on ne le savait même pas, oui, peut-être il y a 10 ans. Il y a certaines de ces découvertes qui sont encore beaucoup plus récentes. Aujourd'hui, on en est à un petit peu plus de 5300 exoplanètes qui sont confirmées. Il y en a beaucoup plus qui restent à confirmer. Confirmer des exoplanètes, c'est pas facile parce que...
Les exoplanètes, c'est celles qui sont en dehors du système solaire.
En dehors du système solaire, voilà. Ce sont des planètes autour d'étoiles au-delà du système solaire. Là, généralement, la méthode pour les découvrir, il y en a beaucoup. Il y a 4-5 méthodes pour les découvrir. Celle qui est la plus utilisée, qui était la plus utilisée par Kepler, c'est la méthode du transit. En clair, c'est une technique de photométrie, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite planète. Vous vous rappelez le petit point bleu pâle de Carl Sagan? Ben, c'est la même chose. Vous avez quelque chose comme un pixel ou une fraction de pixel qui passe devant une étoile et qui fait baisser la lumière de cette étoile de 1/10 millième. Et donc, quand on a détecté cette baisse dans la courbe de la lumière, il faut ensuite attendre que la planète repasse pour la confirmer. Donc, quelquefois, ça dépend à quelle distance se trouve la planète. Mais si elle tourne très vite, c'est facile. Généralement, les Jupiters chauds, ils tournent très très vite autour de leur planète, donc on peut faire des mesures rapides. Mais il y a des planètes qui ont des révolutions de 10 ans ou 50 ans. Donc, pour les confirmer, ça prend plus de temps.
Vous disiez, Nathalie Cabrol, qu'on avait connu un âge d'or de l'astrobiologie et qu'on ne connaîtrait plus jamais ce qu'on a connu, en particulier quand Carl Sagan a retourné la caméra. Cela dit, en décembre 2021, nous enregistrons ces émissions en janvier 2023, donc il y a très très peu de temps, en décembre 2021, la NASA a lancé le plus grand télescope spatial du monde, James Webb.
Techniquement, c'est l'ESA qui l'a lancé, mais merci beaucoup parce que c'était parfait.
Et certains disent, peu importe en tout cas, parce que ce qui compte, c'est...
Non, c'était un lancement absolument parfait qui a passé le télescope de telle manière qu'il va pouvoir fonctionner beaucoup plus longtemps qu'on ne l'espérait.
Et certains disent qu'il va révolutionner tout ce qu'on sait, qu'il va renouveler le
regard. Il l'a déjà fait.
Sur le ciel, on a eu des premières images en juillet.
La première image de James Webb, on en parle encore.
C'était un feu d'artifice de galaxies dans un grain de sable, justement.
Oui, absolument. Et donc, l'équivalent, si vous voulez...
Il y a encore des choses à découvrir extraordinaires.
Non. Ce dont je parlais, bien évidemment, et plus on avance en technologie, plus on regardera l'univers de manière différente, plus on va découvrir de choses, plus ça va ouvrir de portes. Ce que je voulais dire, c'est une révolution, c'est un changement de perspective. On a eu les changements de perspective de la révolution copernicienne qui nous a replacés autour du Soleil, par exemple, au lieu de faire de la Terre le centre. Et puis ensuite, il y a eu le changement de perspective des astronautes de la Lune qui, pour la première fois, ont vu la Terre depuis l'espace. et ont compris sa fragilité. Et puis il y a eu la vision de Carl Sagan, qui annonçait les exoplanètes, qui a vu la Terre et sa fragilité, encore une fois. Il y a non seulement le message d'exploration planétaire, mais aussi le message philosophique et humain de l'importance de la fragilité de la Terre et de la notion de solidarité dont on doit faire preuve, parce que c'est tout ce qu'on a, hein, c'est la seule maison qu'on a. La révolution suivante, elle a été amenée par la découverte des premières exoplanètes. Ça veut dire que on s'est vu avec les astronautes depuis l'espace, mais maintenant on se tourne vers l'espace pour comprendre notre position en tant que système solaire dans un ensemble beaucoup plus grand, dans une galaxie où il y en a des tas. On n'est pas unique. On est unique par beaucoup de côtés, parce que le système solaire est unique, mais on n'est pas seul. Et donc, la prochaine révolution que je vois, c'est la découverte de la vie ailleurs, qui nous replacera dans une galerie de civilisations ailleurs. Mais les découvertes, il va y en avoir des tas, on va apprendre des tas de choses, et ça nous permettra de regarder l'univers de manière complètement différente.
Cette question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?», qui est effectivement une question aussi vieille que l'humanité, vous le disiez, Nathalie Cabrol, ça sera l'objet de notre quatrième émission, donc après-demain. Je voudrais qu'on termine cette émission avec vos travaux au SETI. L'Institut SETI a été fondé en 1984. Vous y arrivez au début des années 98, donc 14 ans après la création de l'Institut. Quelle est la place de l'Institut SETI dans ses recherches en astrobiologie?
La place de l'Institut, elle est vraiment centrale. C'est probablement le seul ou un des rares instituts au monde qui couvre la recherche de la vie dans l'univers depuis l'origine de la vie jusqu'à la recherche de civilisations extraterrestres avancées. Donc c'est un institut qui en plus se développe très très rapidement maintenant et qui aujourd'hui a environ une centaine de chercheurs et qui travaille dans des domaines aussi larges que l'astrophysique, l'astronomie, l'astrobiologie, l'exploration planétaire, la recherche de SETI, bien évidemment, et la recherche de SETI qui se fait de deux façons, que ce soit la recherche de technosignatures, c'est-à-dire des signatures de la technologie extraterrestre, et ça, c'est quand on écoute avec les radiotélescopes, ou alors qu'on recherche la pollution, si vous préférez, dans l'atmosphère des exoplanètes. Et puis aussi, essayer de comprendre ce qu'est l'intelligence et la communication, comment les espèces intelligentes communiquent. Et on a des chercheurs qui s'intéressent aux espèces intelligentes terrestres, comme les baleines, les primates, les abeilles, etc. Et des recherches absolument fondamentales qui montrent que toutes ces espèces intelligentes ont en fait une grammaire semblable à la nôtre. Elles articulent leur communication de la même manière que les humains l'articulent. Donc maintenant, à savoir si c'est une structure qui est le fruit de 4 milliards d'années de coévolution sur une planète ou si c'est quelque chose d'universel. Si c'est quelque chose d'universel, c'est peut-être une clé pour chercher la vie ailleurs.
Bon, on avait la tête dans les étoiles dans cette émission aujourd'hui. Pour demain, je vous propose de revenir sur Terre, avec vous d'ailleurs, puisque avec votre deuxième casquette de scientifique, qui est la casquette exploratrice, aventurière même, escaladeuse et plongeuse. Nous allons revenir sur Terre en plongeant dans les lacs d'altitude des Andes, qui recèlent les clés de nos origines. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.